Bienvenue. Comme vous savez tous, le livre vient d'être publié, les cours viennent d'être publiés. Et ce que nous allons faire, c'est en fait, ça va être un reading group avec le Dream Team. Voilà, c'est ça l'idée aujourd'hui. Ok, le reading group. Mais vraiment, c'est pour rentrer dans ce texte, commencer à penser des pistes de recherche, des premières réactions et des premières pensées. Alors, je ne vais pas tarder à commencer la journée, j'ai déjà trop dit dans la situation qui est déjà trop longue et il y en avait beaucoup qui étaient barrés. Mais je ne peux pas me restreindre de juste parler de deux choses rapidement, parce que ce cours est absolument remarquable. La première chose, c'est vraiment le mariage entre l'économie politique et la généalogie de la morale dans ce texte. La façon dont on voit naître dans ce texte la généalogie de Foucault. Vous savez très bien la discussion de l'économie politique des illégalismes dans ce texte est très important au mouvement du cours. Et c'est vraiment au mouvement entre l'économie politique et la naissance de la généalogie qu'on voit un élément remarquable qui est en train de naître, vraiment. Vous savez, c'est ce passage, Sacha, si tu pourrais passer à l'autre, vous savez, ce passage où Foucault fabrique une discussion entre les classes populaires et la bourgeoisie, au début du 19e siècle, et quand la classe populaire demande pourquoi est-ce que nous sommes maintenant les objets de cette illégalité, de comment est-ce que vous tournez les illégalismes en illégalité maintenant, et Foucault produit cette discussion où la bourgeoisie répond que sous l'Ancien Régime, on s'en prenait à des règles, à des lois, à des abus injustifiables et qu'il s'agissait alors de pouvoir donc de politique. Tandis que maintenant, on s'en prend à des choses, à des propriétés, par conséquent, au droit commun, au droit naturel, au patrimoine. Autrefois, on s'attaquait à des abus de pouvoir. Maintenant, en violant le droit, on manifeste aussi un défaut de morale. Sacha, et il écrit en bas de page, dans le manuscrit, c'est un moment remarquable, il écrit, après cette intervention, après cette discussion, il écrit « Allez !» et faites pénitence. Allez et faites pénitence. Et c'est vraiment ce moment-là où on ressent la généalogie, l'élément de pénitence dans la production de ce qui va être le pénitentiaire, bien sûr, et ce qui va être le pouvoir punitif, disciplinaire. On ressent ici la naissance vraiment de la généalogie. L'autre élément que je ne peux pas ne pas commencer avec aujourd'hui, c'est l'engagement. Vraiment, c'est un texte où on ressent l'engagement de Foucault. C'est un texte qui est vraiment où on ressent la force, la lutte. Alors ici, vous savez, vous connaissez ce passage dans la Société punitive, page 168, où il est en train vraiment de parler de l'habitude de parler de la bêtise de la bourgeoisie. On en avait parlé à Columbia. Vous allez en parler.
Je vous ai dit une demi-sottise, oui, je vais rectifier.
Vous allez rectifier, ok, très bien. Mais de toute façon, si aussi, on voit vraiment l'engagement de Foucault et on le ressent à travers tout ce texte, vraiment. Et quand il dit qu'en fait, on peut définir les intellectuels comme ceux sur qui l'intelligence de la bourgeoisie produit un effet d'aveuglement et de bêtise, Sacha. Et ensuite, il ajoute dans le manuscrit un passage merveilleux, il ajoute et il dit « Ceux qui le nient sont des amuseurs publics, ils méconnaissent le sérieux de la lutte. » Et donc c'est vraiment dans ce passage et à travers tout ce texte qu'on ressent que c'est un engagement intellectuel et pratique. Et on ressent vraiment la force de Foucault dans ses cours. Bon, voyons, il y a beaucoup de monde à remercier pour ce cours. J'allais essayer de voir, Gilbert Burlet allait venir, c'est grâce à lui qui a enregistré ses cours en 72, en 73, qu'on a ce texte magnifique et qu'on a pu travailler avec le manuscrit. Mais il y a beaucoup d'autres mondes à remercier. Mais je vais m'arrêter ici et on va se plonger dans cette journée d'études parce que vraiment c'est une journée pour travailler. Alors, sur nos premiers intervenants, je vais les introduire seriatim, une à la fois. Et on va commencer avec Étienne Balibar. Nous nous sommes rencontrés à Columbia cette année. Nous avons formé une amitié profonde. Je dirais que c'est le plus grand philosophe vivant. Oui. OK. Vous savez, il était à l'Université de Paris. Nanterre.
Vous vous moquez de moi.
I wasn't doing that. OK. Vous le connaissez depuis 65 avec Lire le Capital, plus récemment des œuvres comme Citoyens, sujets et autres essais d'anthropologie philosophique. Et nous avons aux États-Unis le grand plaisir d'avoir Étienne Balibar avec nous à Columbia. Bon.
Allez, je veux que je dise maintenant. Alors, merci beaucoup, Bernard. Je suis très touché par vos paroles d'amitié et je pense qu'il faut prendre de votre admiration. Je vous propose de vous la rendre. Bon, alors j'ai eu assez de temps pour lire le texte. Parce que vous avez eu la très grande gentillesse de me communiquer un jeu d'épreuves que je vais évidemment garder précieusement parce que c'est le témoignage de votre confiance et de votre amitié et parce que évidemment l'ayant griffonné dans tous les sens en prévision de la journée d'aujourd'hui il va désormais constituer pour moi un instrument de travail permanent. Comment est la sonorité? Il faut parler plus fort? Ça va? Bon, il y a des... Alors, en revanche, évidemment, j'aurais pas assez de temps, 10 minutes grosso modo. Bon, mais heureusement, nous sommes très nombreux à intervenir. Je ne suis que le premier. Je ne veux pas dire par là que nous avons tous la même chose à dire. Au contraire, je suis sûr que nous avons des choses très différentes. Et si nous n'en disons qu'une partie, en tout cas pour ce qui concerne, ça n'en sera évidemment qu'une partie, je pense que ça n'est pas grave, parce que c'est une sorte de course de relais. Bon. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, évidemment, c'est que, effectivement, ce cours est extraordinairement frappant. Il est magnifique. Les précédents aussi, bien sûr, tous dans leur publication, mais je pense qu'il arrive à un moment important, pour des raisons que vous avez esquissées et que d'autres vont dire, c'est-à-dire un moment où les questions que Foucault posait dans ce cours sont relancées, au fond, par l'actualité, aussi bien sur le versant de la pensée économique que sur celui de la généalogie de la morale, d'une façon qui fait de la lecture de ce texte une expérience véritablement très enrichissante. Je n'avais pas assisté, contrairement à d'autres qui sans doute sont ici, au moins collaboré, bon, à la lecture de ce cours par Foucault au Collège de France. Il produit donc sur moi un effet d'après-coup qui est très, très fort et qui est aussi, à certains égards, un effet de révélation. Mais en même temps, je me dis que probablement à l'époque, sûrement j'aurais été pris presque en pleine figure par certaines des formulations de Foucault dans ce cours si je les avais entendues de vive voix et dans leur contexte. Mais peut-être je n'aurais pas été en mesure, comme je suis en partie mieux en tout cas aujourd'hui, d'en apercevoir les tenants et les aboutissants. Alors, je voudrais insister sur les quelques points suivants. D'abord, il me semble que ce cours est un extraordinaire moment d'invention et d'expérimentation intellectuelle, ou plus précisément théorique. Vous venez de nous rappeler et vous expliquer admirablement dans votre postface, qui ne tourne pas trop long, bien au contraire, et dont au contraire je vais être obligé de redire ou de reprendre à ma façon beaucoup d'éléments, que nous assistons là en quelque sorte au tournant ou au moment de transformation méthodologique qui va produire chez Foucault, avec surveiller et punir, bien entendu, l'émergence, l'éclosion de la grande méthode généalogique. C'est tout à fait vrai. C'est pourquoi la comparaison avec surveiller et punir, que nous avons tous en mémoire, nous relisons périodiquement, constitue une expérience intellectuelle extrêmement passionnante, à la fois à cause de ce que les textes ont en commun, de ce qui émerge ainsi de la généalogie et donc des intentions, du contexte militant, des tenants et des aboutissants politiques de surveiller et punir, et aussi à cause de la très profonde différence entre les deux. C'est-à-dire que ceci n'est pas un brouillon de surveiller et punir. C'est un autre texte qui recoupe celui que nous connaissons, qui sera écrit que quelques années plus tard, sur des points tout à fait essentiels, mais qui a au fond une autre orientation, peut-être à la limite un autre objectif. Je laisse de côté la différence des genres, bon, sur laquelle je reviendrai, et qui donc ne produit pas les mêmes effets théoriques. Bon. Alors évidemment, dans une situation de ce genre, on est amené à se poser deux types de questions. Je ne fais que les mentionner. Et ce ne sont pas des questions normatives, bien entendu, elles se veulent descriptives. Bon, qu'est-ce qui, à partir de la société punitive, va se transformer, s'amplifier et passer au premier plan dans surveiller et punir, par exemple, comment la notion du pouvoir disciplinaire, dont, me semble-t-il, dans ce texte, Foucault insiste tout particulièrement sur le fait qu'il s'agit essentiellement d'un rapport, c'est ce qu'il veut analyser avant d'être une institution. Comment cette notion de pouvoir disciplinaire va-t-elle se développer encore et devenir l'instrument d'analyse et de réflexion philosophique et politique qu'elle est dans surveiller et punir. Comment, de ce fait même, et le changement des mots, je crois, est important, l'idée d'une société punitive se transformera-t-elle dans l'idée du système carcéral et du panoptisme comme modèle généralisé d'organisation et de fonctionnement des institutions de l'État bourgeois moderne. Mais inversement, la question se pose aussi, et je répète qu'il ne s'agit pas du tout ici de porter des jugements de valeur, de ce qui disparaît, de ce qui est perdu, hein, en quelque sorte, quand on passe de la société punitive à surveiller et punir, c'est-à-dire quelles sont, et c'est ça la création intellectuelle, bien entendu, les voies qui ont été momentanément ouvertes, explorées jusqu'à un certain point, laissées en suspens dans une certaine mesure, pour être en quelque sorte refoulé, j'allais même dire sacrifié à la nécessité d'une autre construction. Bon. Alors c'est peut-être cela qui va m'intéresser le plus dans les quelques minutes qui me restent. Et encore une fois, je n'ai pas du tout la prétention de le décrire dans sa totalité. Bon. Et la façon dont Bernard Harcourt, dans sa postface et dans ses notes, enfin, tout à fait extraordinaire de précision et de profondeur historique et d'ampleur dans le régime des comparaisons intellectuelles qu'il a réussi à établir, constitue la base même de ce que je vais dire ici. Alors, la première chose qui me frappe à cet égard, et sur laquelle je voudrais insister, c'est que, pour reprendre le mot fameux des dernières lignes de Surveiller et punir, le grondement de la bataille, on entend, c'est-à-dire qu'en réalité on lit, mais dans une écriture qui fait impression sur l'oreille, tellement elle est belle, tellement elle est euphonique, bon, on entend l'écho de plusieurs batailles. Il y a, bien sûr, la bataille qui se livre dans les prisons elles-mêmes, autour des prisons, dans la société, dans toutes sortes de lieux très matériels que Foucault connaît, qu'il pratique et qu'avec d'autres, dont vous parlez en note, il entreprend de contester. Mais il y a aussi une autre bataille que l'intellectuel ou le philosophe, surtout la génération à laquelle j'appartiens, ne peut pas laisser de côté. C'est la bataille théorique. C'est la bataille théorique avec les interlocuteurs de Foucault, ses contemporains, ses adversaires sur certains points, ses alliés sur d'autres, tout ça dans un dispositif stratégique qui est tout à fait fascinant. Bon. Je me disais aussi en le lisant et en lisant vos notes que tout ceci faisait sens dans la mesure où on pensait aux circonstances dans lesquelles le cours est proféré, c'est-à-dire non seulement à sa date, 1972, 1973, mais aussi à son public. Je pense qu'il faut imaginer le public à qui Foucault s'adresse. Bon, ce public n'est certainement pas simple, il n'est pas réductible à un seul et unique dénominateur commun. Il contient des étudiants, des militants, des normaliens, des gens sans diplôme, tout ça, etc. Bon. Mais tous ces gens-là, à ce moment-là, partagent, je suis presque tenté de dire, une sorte de passion, presque une frénésie pour un certain nombre de questions théoriques. Des mots qui aujourd'hui peut-être sonnent comme ça, sont au repos. Hein, bon, ces mots corps productif, mode de production. Il faut bien se rendre compte que ça est chargé d'une passion extraordinaire. Alors, il a tout à fait raison de signaler au détour d'une note que quand Foucault écrit, mais je crois qu'il n'a finalement pas prononcé cette phrase, qu'il s'agit pour lui d'ouvrir sur le hors-texte, évidemment, c'est de Derrida qui s'agit. C'est très critique, on sait bien à quel point leur rapport à cette période, je n'ai pas revu les dates exactement, ont été non seulement passionnels, mais violents. Bon, vous avez tout à fait raison de dire que dans vos notes que les formulations d'Althusser et par conséquent une espèce d'altercation avec Althusser constituent un fil conducteur pratiquement, ou en tout cas une constante de l'écriture de texte. C'est stupéfiant pour moi, mais je pense que ça l'est aussi pour d'autres, et ça va jusque dans le détail des phrases. C'est dire l'importance des formulations d'Althusser, et avant les formulations d'Althusser, évidemment, l'amitié d'Althusser et le dialogue avec Althusser, mais c'est dire, pour Foucault, mais c'est dire aussi la nécessité qui ne se réduit absolument pas, à mes yeux, à des divergences ou à des prises de parti qui, en effet, les ont opposées de plus en plus justement autour de ces années-là, l'importance de la clarification sur des points qui justement étaient des points d'affrontement parce que c'était des points de très grande proximité. Par exemple, sur la question du non-dit ou de l'impensé, il faut quand même se souvenir que dans Lire le Capital, Althusser s'était réclamé sur au moins 3 pages de longueur de Foucault pour justifier ce que précisément Foucault ici finalement écarte. Et il en va de même pour la question des appareils idéologique d'État, du concept même d'idéologie, de la dualité entre le coercitif et l'idéologique, sur les ruines de laquelle en quelque sorte s'élève, commence à s'élever une théorie du pouvoir. Mais Althusser n'est pas le seul. Vous avez raison de citer Deleuze, Mais je pense que, alors là, il ne s'agit pas d'altercation, c'est plutôt l'inverse, il s'agit d'alliance. La façon dont Foucault traite dans ce cours de la construction ou de la constitution des corps productifs ou de la force productive des corps, et la référence très spécifique qu'il fait au désir à plusieurs reprises dans ce texte, signe, me semble-t-il, un croisement avec Deleuze qui est destiné finalement à se défaire. Bon. Et puis il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre encore. Il y a dans l'insistance sur la question du refus du travail, me semble-t-il, un écho de l'opéraïsme italien. Alors j'aimerais bien savoir ce que Foucault à cette époque en savait, parce que les opéraïstes sont ensuite, certains d'entre eux se sont ensuite beaucoup servis de Foucault, mais ici ça serait d'une certaine façon l'inverse. Il y a l'école de Francfort, etc. Et il y a le rapport complexe à Freud. J'ai toujours pensé que le titre même « Surveiller et punir » constituait de la part de Foucault une sorte de grande alternative à la conceptualisation freudienne du surmoi. Et il me semble que dans les pages sur lesquelles vous insistez, où Foucault développe ici la notion du surpouvoir de la bourgeoisie, nous avons comme une sorte de preuve littérale et expérimentale, non pas de la façon dont il s'inspire de Freud, mais dans la façon dont il construit une alternative à Freud. Bon, alors, j'ai déjà trop parlé, arrêtez-moi, mais si vous me donnez encore 2 minutes, je voudrais dire maintenant sur le contenu deux choses qui m'ont frappé, justement du point de vue d'un projet théorique qui n'est pas simplement virtuel, Foucault le pousse très loin, mais dont il faut bien reconnaître, pour des raisons dont il nous faudra, je pense, discuter, il n'a pas décidé de le poursuivre plus loin. Alors, ce projet théorique est le projet d'un marxisme alternatif, il n'y a pas de doute à mes yeux sur ce point. Et on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais lui, Foucault, entre dans les détails. C'est véritablement le moment du règlement de compte avec le marxisme, mais ce règlement de compte prend la forme d'une tentative de transformation interne. Ce n'est pas une élimination, c'est une remise en jeu de certains des axiomes et des propositions de Marx. Et elle porte en particulier sur trois points qui sont cruciaux. D'abord, une nouvelle façon de comprendre, d'essayer de comprendre le jeu stratégique de la bourgeoisie comme classe. Derrière cette question, et là aussi le rapport avec Althusser est très proche, parce que c'est une espèce de surdétermination historique conjoncturelle que Foucault décrit ici, évidemment d'une façon à laquelle Marx n'avait pas du tout pensé, comment certaines alliances entre certains illégalismes se font pour amener la bourgeoisie au pouvoir, et comment elles se défont nécessairement à partir du moment où la bourgeoisie exerce effectivement le pouvoir. Il y a l'idée très importante, je pense, qui m'apparaît mieux dont l'importance m'apparaît mieux pour l'intelligence de Foucault, suivant laquelle, alors là il y a opposition frontale avec une certaine tradition marxiste, mais pas nécessairement avec tout ce qu'on peut lire dans Marx, suivant laquelle il n'est pas vrai que la bourgeoisie a hérité un appareil d'État de la société pré-capitaliste pour le mettre en quelque sorte au service de sa propre domination. Au contraire, il a fallu qu'elle le démolisse et qu'elle le reconstruise sur des bases normatives et institutionnelles complètement différentes. Et derrière ceci, il y a une autre question que je trouve passionnante du point de vue de l'histoire des idées et de l'histoire de la pensée, qui est de savoir s'il faut penser ce que nous appelons capitalisme essentiellement comme le pouvoir de la bourgeoisie ou comme la logique du capital. Et alors ce qui est très intéressant, c'est que Foucault combine les deux dans ce texte, évidemment. Il traite de la reproduction de la force de travail, de la mise au travail, ça, bon, ça c'est la logique du capital. Mais quand même, fondamentalement, et c'est très français, ça, c'est très français, c'est quelque chose qu'il a de commun, c'est pas du tout, justement, opéraïste, trontien ou allemand, école de Francfort, c'est quand même fondamentalement la question du pouvoir social, moral et politique de la bourgeoisie qui est au centre de ses préoccupations. Le deuxième point, j'irai très vite, qui est très frappant de ce point de vue, c'est le travail sur la question, le travail, sans jeu de mots, sur la question du travail et plus précisément sur la question du temps de travail. Alors évidemment, ceci ne pouvait pas manquer de me frapper parce que pardon de la référence biographique, mais des souvenirs. Bon. Mais au moment où Foucault écrit en propre ligne, en propre terme dans son texte, il faut penser une forme prison, hein, bon, qui, dont la fonction est centrale, non, dont l'émergence est centrale pour la forme sociale tout entière, ou pour la formation sociale, comme aurait dit Marx, dont l'articulation est à la fois non nécessaire, il n'y a pas de logique fonctionnelle là-dedans, mais historiquement déterminante avec la forme salaire, hein, avec la forme salaire. Vous ne pouvez pas ne pas me souvenir qu'à cette époque, les Althussériens dont je faisais partie avaient pataugé après 68 dans une tentative qui a partiellement abouti et partiellement fait long feu pour essayer de construire en parallèle une théorie de la forme scolaire et une théorie de la forme salaire. Alors je me suis dit, au fond, avec la forme prison, Foucault faisait la même chose, mais la différence c'est que nous avons échoué et que lui il a réussi. Bon, je suis plein d'admiration et en même temps plein d'intérêt. Et évidemment, ce qui est au cœur de tout ceci, c'est d'un côté, et là il n'y a pas d'incompatibilité avec Althusser, une étonnante tentative pour penser la formation sociale comme un tout complexe structuré, comme aurait dit Althusser, à dominante carcérale ou à dominante disciplinaire, dont le résultat est la pénalisation de l'existence, la pénétration du corps social tout entier par une première version de ce que Foucault appellera plus tard, évidemment, normalisation ou travail de normalisation, ici centré sur la question de l'habitude, enfin, sur la question de l'habitude au travail, et qui, évidemment, remet complètement en jeu la question des rapports entre l'usage des corps et la liberté, donc le problème de la subjectivation et celui de l'individuation. Et justement parce que Foucault ici colle le plus près possible et le plus longtemps possible à une problématique, disons, d'origine marxiste, de la reproduction ou de la production du corps productif, de la force de travail, ce qui frappe du même coup, évidemment, c'est, alors à nouveau par rapport à Althusser, c'est l'inversion, le renversement du vecteur, non pas l'incitant sur la question de savoir comment on transforme des individus en sujets, même si cette question n'oubliez pas indifférente, mais surtout l'insistant sur la question de savoir comment on transforme des sujets en individus par un ensemble de techniques au centre desquels figure cette étonnante phénoménologie de la séquestration. Et alors, pour finir, je dirais que à côté de ce ou en surplus de ce marxisme alternatif, qui est peut-être un marxisme fantastique, qui est peut-être un marxisme imaginaire, mais j'ai dit quelque part il y a quelques années, en reprenant la phrase polémique de Raymond Aron, que tous les marxismes, à partir d'un certain moment, sont devenus des marxismes imaginaires, et c'est ceux-là qui sont productifs et qui sont encore intéressants aujourd'hui. Il y a aussi une autre alternative ou production d'alternatives théoriques qui n'est pas moins importante, évidemment, qui fait partie de la genèse de la problématique de la normalisation, que j'appellerais plutôt une sociologie ou un sociologisme alternatif. Alors évidemment, Foucault a cette idée tout à fait extraordinaire que pour comprendre ce que c'est qu'une société, il ne faut pas commencer par se demander, par mettre au centre ce qui est normal, hein, ce qui est normal, ce qui est régulier, pour ensuite décrire des marges d'anomie ou de décomposition de la norme. Il fait à sa façon, nouveau parallèle problématique bien sûr, ce que Freud avait fait à propos du normal et du pathologique. Il met la normalité au centre. Plus précisément, il explique qu'une société, c'est d'abord fondamentalement le système complexe de tous ces illégalismes, et que la loi ne vient qu'ensuite pour les organiser, les utiliser ou les réprimer. Donc il y a une altercation profonde avec le fonctionnalisme sociologique, une réfutation de l'intérieur, au fond, du fonctionnalisme sociologique. Donc, évidemment, l'invention, la création d'une sorte d'actionnalisme proprement foucaldien. Et du même coup, c'est mon tout dernier mot. À nouveau, ce qui me frappe le plus, ce sont les profondes affinités de la pensée et de la méthode de Foucault sur ce point avec Weber, alors qu'il ne parle généralement que de Durkheim, le Weber qui lui aussi à propos du pouvoir expliquait que ce qui le caractérise, ce n'est pas la préexistence d'une norme, mais c'est la question de savoir comment elle est obéie ou désobéie, c'est-à-dire finalement quels sont les rapports de force qui font que certaines normes sont obéies mais que d'autres ne le sont pas, et qui installe par conséquent au cœur de la construction sociale une sorte d'illégitimité fondamentale dont elle n'est jamais que l'élaboration secondaire.
Wow, formidable, merci. Bon, alors, Daniel Defer va suivre avec quelques mots sur le cours. Vous connaissez tous Daniel Defer, qui, entre autres, a édité les cours les derniers cours, leçons sur la volonté de savoir, qui, avec François Ewald, ont vraiment dirigé toute la production des œuvres de Foucault. Daniel.
Merci. Pour moi, mon problème, ce n'est pas le temps de lire La société punitive, c'est la capacité de relire les notes que j'ai préparées. Donc, j'en suis désolé d'avance. Bon, quand on compare la structure de la société punitive et la structure de surveiller et punir, on est frappé d'emblée par une différence immédiate. Et or, et c'est un certain nombre d'éléments de contexte que je voudrais rappeler, je me rappelle par rapport à un certain nombre de réactions de Foucault que pour lui, au fond, ce cours et ce livre appartenaient au même bloc argumentaire, et que certainement ces différences qu'on peut faire quand on compare les deux ouvrages, il ne les faisait probablement pas quand il en parlait. Alors, je voudrais insister seulement sur deux points. Vous vous rappelez tous la flamboyance stylistique de surveiller et punir, et deux images qui ont surnagé la totalité du volume, sa démonstration: Le supplice de Damien et le panoptique. Ce sont en général les éléments qu'on a toujours rappelés pour résumer surveiller et punir. Or, c'est étonnant comment ces deux éléments sont en fait dissous tout à fait. Ils sont présents, mais à peine dans ce livre-là. Et au contraire, ce qui apparaît, vous vous rappelez, dans Le supplice de Damien, on a la confrontation entre le corps physique du supplicié et le corps symbolique du roi. Et le corps symbolique du roi est la symbolisation d'une forme de pouvoir, le pouvoir de souveraineté. Or, et de même, le dispositif de surveillance architecturale, panoptique, semble être au cœur de surveiller et punir. Or, dès qu'on ouvre la société punitive, dès la page 35, Foucault rappelle qu'à partir du Moyen-Âge, le souverain se substituant à l'adversaire singulier du criminel vient déclarer que le criminel a atteint la loi. C'est-à-dire que le souverain n'est pas cette forme de pouvoir souverain qui est développé dans Surveiller et Punir, mais le souverain, au fond, c'est une substitution de l'action publique. Et au fond, il montre que l'action publique en justice apparaît très très tôt, au Moyen-Âge. Or, si vous vous rappelez la volonté de savoir, enfin le cours sur la volonté de savoir, il montre précisément que ce qui caractérisait la justice grecque, c'est qu'il n'y avait pas d'action publique, qu'il n'y avait que des adversaires. Et on était dans un monde purement agonistique. Et là, on a d'emblée le souverain et le représentant de l'action publique, c'est-à-dire que d'emblée, toute délinquance, tout acte criminel est une atteinte à l'ordre social, et d'emblée, nous sommes dans une sphère politique. C'est-à-dire, d'emblée, la délinquance ne relève pas d'une idiosyncrasie psychopathologique, on est d'emblée dans une atteinte au corps social. Or, moi, ça me frappe, parce que c'était l'enjeu même, à l'époque, du GIP. Et c'est cet élément de contexte que je voudrais rappeler. Rappelez-vous, vous êtes tous très jeunes, donc vous ne vous rappelez même pas, à part vous, qui avez participé à l'aventure. Le GIP naît dans un contexte très particulier. La gauche prolétarienne à laquelle certains ici appartenaient venait d'être interdite, et un nombre important de ses militants étaient en prison et faisaient une grève pour obtenir la reconnaissance du statut de prisonnier politique, ce qui était une injure au pouvoir d'État. Un État démocratique qui enferme politiquement des gens, c'est le goulag. Bon, le GIP se créait pendant une grève de la faim, pendant une bataille pour obtenir cette reconnaissance du régime politique. Foucault n'était pas très favorable à cette différence constituée politiquement, historiquement, entre détenus de droit commun et détenus politiques. Et au sein même du gauchisme des années 70, il y avait, on renaclait, on disait oui, revendiquer le statut politique, c'est revendiquer des privilèges. C'était pas du tout ça, c'était pas des privilèges, il s'agissait d'un droit de communication avec l'extérieur, un droit d'appartenir à son univers politique, d'avoir des réunions politiques avec les autres membres prisonniers et avec les gens de son organisation. Donc c'est totalement interdit dans le système carcéral français, où on a droit qu'à sa famille et encore. Condition de soit une famille légitime. Et donc, cette grève de la faim obtient ses résultats, puisque le garde des Sceaux, finalement, reconnaît non pas un régime politique, mais un régime spécial aux détenus maoïstes, la grève de la faim s'arrête, et en fond, c'est à ce moment-là que le GIP démarre. Donc, le GIP démarre comme enquête orientée vers l'ensemble des prisonniers, dit de droit commun. Or, justement, cette distinction qui a été importante politiquement dans l'histoire même du mouvement ouvrier, tout ça, cette notion aussi très obscure qui a disparu dans ces années-là de lumpenprolétariat, toutes ces notions-là qui appartenaient un peu aux marges du discours politique, tout ça est en question. Et ce que Foucault fait dans ce cours, c'est bien inscrire la totalité des actes délinquants dans le champ politique. Et c'est-à-dire qu'au moment où le GIP se crée, nous abolissons dans notre tête et dans notre pratique la distinction entre détenus de droit commun et détenus politiques. Et que faisons-nous au sein du groupe d'information sur les prisons ? Nous essayons, et nous avons d'une certaine manière réussi à cette époque-là, à faire adopter par l'ensemble de une partie importante, en tout cas des détenus et de leur entourage et de leur famille, à s'approprier le registre du langage politique. Des manifestations de rue, des tracts, des affiches, un meeting à la mutualité, c'est-à-dire que nous entrons bien dans l'expression politique. Et je trouve donc tout à fait intéressant le travail théorique qui est fait dans la société punitive, et il mérite d'être associé à cet élément, à cet moment de notre histoire politique. Et je pense que là, on a, et c'est ça qui est tout à fait intéressant, tout le travail, tout l'engagement théorique auquel Étienne faisait allusion tout à l'heure, tout l'engagement de Foucault est absolument accompagné d'un travail théorique extrêmement dense. Et au fond, la plupart des actions que nous avons menées étaient soutenues par cette réflexion développée semaine après semaine. Alors, le cours commence après la fin du GIP, mais il y a au fond déjà toute cette expérience acquise dans ce travail. Alors je ne dis pas que ce livre n'aurait pas été possible sans Gibbs. De toute façon, Foucault n'a travaillé sur les prisons que parce que nous nous étions engagés dans ce mouvement-là, mais on voit bien l'articulation qu'il y a entre ce cours et cette action. L'autre élément sur lequel je voulais insister, c'est le fait que la forme architecturale du panoptisme est quand même beaucoup moins importante dans ce cours, et que ce qui est dominant, et Étienne Balibar le rappelait, c'est bien l'analogie entre la forme prison et la forme salaire, dont finalement la prise du temps. Et c'est cela qui est, je crois, l'élément important de tout ce, de la société punitive. Or, je me rappelle une discussion qu'il y avait eu après la sortie du livre de Robert Castel, je crois, L'ordre psychiatrique. Peut-être que c'est le psychanalyste, mais je pense que c'est l'ordre psychiatrique. Je n'ai pas retrouvé la date de parution, mais je pense que c'était juste après Surveiller et punir. Et Castel insistait sur le fait qu'il n'avait pas voulu faire un livre sur l'hôpital psychiatrique, mais bien sur la diffusion de l'idéologie psychiatrique dans la société. Et il insistait bien sur cela, et je ne sais pas si Foucault se sentit mis en cause, et je me rappelle qu'il l'a dit, mais moi aussi c'est ce que j'ai voulu faire. Et lui, il parlait de surveiller et punir, puisque nous n'avions que surveiller et punir, à part les 500-600 personnes qui avaient écouté le cours. Mais moi, c'est ce que j'ai voulu faire. Je ne comprends pas qu'on centre mon livre sur le panoptisme. Et ça, je pense qu'effectivement, dans sa réaction, il ne dissociait pas franchement les deux moments de sa production, c'est-à-dire la société punitive et surveiller et punir. Et donc, c'est vrai que je crois que la beauté stylistique de surveiller et punir, le plaisir incontestable que Foucault avait dans la production esthétique de grands moments dans ses livres, a pu finalement masquer l'intensité théorique qu'il y avait, mais qui n'était peut-être plus tout à fait dans surveiller et punir, mais qui était dans le bloc dans lequel est né Surveiller et punir. Et je pense que ça vaut vraiment la peine de lire aujourd'hui ces deux livres ensemble pour voir l'intensité de la réflexion, et que l'un est un peu, je ne voudrais pas annuler Surveiller et punir, qui a eu une grande histoire internationale, mais je pense que Surveiller et punir est quand même la production esthétique et politique d'une pensée politique et économique beaucoup plus dense, et que c'est indissociable. Voilà, c'est à peu près tout, ces deux éléments de contexte que je voulais rappeler. Je n'ai pas pu relire comment j'avais écrit les choses, mais c'était à peu près ça.
Merci, formidable.
Bon, ok. Vous n'étiez pas ici, Monsieur Burlet, quand je vous ai reconnu pour avoir créé la possibilité d'être ici avec un texte aussi beau, d'avoir enregistré les cours de Foucault, mais je voulais vous remercier. Pierrette Poncela, professeur de droit pénal à l'Université Paris-Ouest-Nanterre, directrice du master de droit pénal et aussi du centre pénal. Et auteur de maintes ouvrages dans le pénal très importants, Il n'y a pas de peine juste, récemment avec Guy Casadamon, La fabrique du droit, des sanctions pénales au Conseil de l'Europe, Les délinquances des jeunes, La chef pénaliste.
Bon, merci de me présenter comme pénaliste, parce qu'effectivement, c'est comme ça que je vais essayer de faire quelques observations. Alors, je crains d'être moins dans la lecture de la société punitive que dans l'autre aspect que tu avais évoqué, c'est-à-dire nos pistes de recherche. Bon, Pourquoi je suis moins dans la lecture de la société punitive ? Évidemment que j'ai lu ce cours, mais d'abord j'ai peut-être été écrasée par la situation du cours que tu rédiges. J'ai l'impression qu'il y a déjà l'essentiel qui est dit là. Hein. Et puis, peut-être parce que surveiller et punir pour moi, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti, me semble beaucoup plus abouti. Beaucoup plus abouti dans la façon de que je dis franchement les choses dont je les ai perçues. Mais je ne suis pas philosophe, je suis juriste. Bon. Simplement sur le cours, je voudrais dire, vous l'avez déjà souligné, l'importance de l'actualité qui se déroulait au moment où avait lieu ce cours. Pour moi, pénaliste, ça fait écho, bon alors tout ce que l'on sait, évidemment le mouvement des prisons, on ne revient pas là-dessus, mais il se trouve que je suis parmi les juristes, on n'est pas nombreux, hein, à considérer que 1975 a été une rupture dans l'économie de nos peines. En effet, je y reviendrai, hein, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'apparaît en droit pénal les fameuses peines alternatives. Bon, pour moi, ça c'est une, alors je dirais pas rupture, mais presque, hein, là naît vraiment quelque chose qui arrive, hein, progressivement bien entendu, mais qui se traduit dans nos institutions et qui est en plein dans notre actualité pénale. Alors mon intérêt, moi, dans toutes les écrits de Foucault, c'est, je suis très utilitariste, hein, c'est de piquer des catégories pour penser le pénal. Voilà. Comme juriste, c'est, il y a lui, évidemment, il y a ce plaisir de lecture absolument formidable, hein, de lui, mais c'est ça, arriver à, par la lecture de Foucault, voir autrement le droit pénal. Alors, il y a dans la société punitive, mais je ne vais pas du tout m'y arrêter là-dessus, tout ce qui est écrit historique, mis à contribution, etc., et beaucoup les discours politiques, c'est-à-dire les discours prononcés à l'Assemblée constituante, cette grande assemblée qui est l'assemblée qui a constitué notre droit pénal moderne, enfin l'a concrétisé. C'est-à-dire ces passeurs, hein, du droit pénal moderne qu'ont été les constituants. C'est un point sensible pour moi, ça, même si je ne vais pas m'y attarder, puisque les recherches que j'ai faites avec Pierre Lascoum sur la constitution du droit pénal moderne ont pour moi radicalement changé ma façon même d'enseigner le droit pénal et de le comprendre. C'est dire à quel point cette culture historique me paraît absolument fondamental pour comprendre le droit pénal tel qu'il est. J'aurais j'ose à peine le dire, mais quand même quelques petites divergences, j'y reviendrai pas. Je vais simplement la noter avec Michel Foucault, je me permets. Je trouve qu'il n'a pas donné la place qu'il méritait à Adrien Duport. Il lui reconnaît sa place dans l'organisation judiciaire, mais pas assez, et justement dans la justification de la prison comme peine, parce que c'est Duport qui le fait, c'est Duport qui le porte à l'Assemblée constituante, et puis une autre peine qui est fondamentale à ce moment-là, qui est la dégradation civique. Et on doit lire prison et dégradation civique ensemble, ce que fait Adrien Duport. Voilà, donc c'est un regret, mais tellement d'autres choses. Bon. Mais mes préoccupations à moi, c'est surtout le présent. Le présent et les échos de ce cours, mais plus encore, bien entendu, des réflexions, les écrits postérieurs. Qu'est-ce qui, pour moi, dans le présent, m'interpelle dans ce cours et les écrits postérieurs ? Alors, il y a deux ou trois points. Ce que je vais noter, évidemment, et que je soumets à votre discussion, et puis surtout à l'enrichissement que les philosophes et autres, d'ailleurs, ne manqueront pas d'apporter à mes quelques réflexions de juriste. Hein. C'est d'abord, le premier point, les illégalismes. Donc Bernard, évidemment, le souligne. Hein, c'est ça. Alors, je ne sais pas si ça naît dans ce cours, mais en tout cas... On le voit formulé dans ce cours. Et puis le deuxième point qui m'importe beaucoup, c'est le mieux punir. Le mieux punir, c'est-à-dire le mieux punir, la surveillance, le contrôle dans la société, les relais de pouvoir dans la société. Il y aurait un troisième point aussi, mais je pense que j'aurai pas le temps, et qui, sur lequel Foucault insiste dans ce cours, mais évidemment ô combien après, c'est l'importance des professionnels de la justice dans les réformes pénales, qui est occultée souvent par aujourd'hui notamment le bruit des médias, qui sont pour moi des caisses résonances des politiques, et donc qui occulte ce rôle souterrain, mais tellement important et qui est très prégnant dans les réformes pénales aujourd'hui. Alors, il y a quelques leçons, évidemment, que dans ce cours qui m'ont été plus précieuses, et notamment celle du 28 mars, qui est la dernière, je crois, où il y a beaucoup de choses sur ces choses. Alors, sur les illégalismes, alors, je dirais que... cette économie politique des illégalismes, qu'il commence à développer ici, qu'on a appelé après la gestion différentielle des illégalismes, c'est, je le répète tout le temps, cardinal. C'est cardinal pour un juriste. Si un juriste ne comprend pas cela, n'est pas rentré là-dedans, je crois qu'il passe à côté de ce qu'est le droit. C'est un formidable outil critique pour le juriste. Pourquoi ? Parce que le juriste ne cesse de naviguer dans les qualifications. Les qualifications juridiques et tout ce qu'elles recèlent, ces qualifications juridiques de choix, d'arbitrage, j'allais dire d'arbitraire aussi, hein, arbitraire, et de construction, de tactique. Mais... Pour le juriste qui étudie la peine, comme moi, j'y ai passé du temps, beaucoup trop de temps probablement, la peine que j'ai qualifiée dernièrement, mais je le reprends parce que pour une fois je m'autocite, mais c'est tout à fait récent, c'est pour ça, je définis la peine à présent comme, alors surtout la peine de prison d'ailleurs, comme un îlot de stigmatisation et de souffrance dans l'océan des sanctions juridiques et des instruments de régulation que je dirais pour VIP. Hein? Donc il faut la réfléchir comme ça. D'où la positivité de la pénalité, sur laquelle insiste tant Michel Foucault, évidemment. Mais, c'est-à-dire, ce n'est pas seulement réprimer, mais c'est d'abord différencier. C'est ça le presque le plus important, réprimer bien sûr, mais surtout différencier. Bon, et les effets et les modalités de cette différenciation sont précisément au cœur de mes préoccupations. Voilà, et je pense que ça c'est important. Il y a une thèse qui est en cours avec moi sur les processus de qualification, dont j'attends beaucoup, de Marc-Antoine Julien, mais vous avez aussi toute une série de travaux qui sont développés à partir de ça. Alors récemment, les travaux d'Anthony Amicel sur la façon de réprimer le fiscal, mais évidemment il y a eu tous les travaux de Pierre Lascoum qui ont été tellement importants sur la délinquance d'affaires, ses travaux sur l'environnement, sur la corruption maintenant, donc, qui sont fondamentales comme exercice concret, plus sectorisé pour comprendre ce que sont les illégalismes. Bon, beaucoup d'autres choses, je vais trop vite, mais vous voyez, je pense que là, il faut être un juriste, je crois, pour pouvoir donner toute sa dimension à ces outils qui nous ont été donnés. Notamment, par exemple, il me semble bien connaître les procédures. Bon, parce que c'est évidemment par les procédures qu'on va différencier. C'est aussi par les sanctions, mais par toute cette multiplicité de procédures que crée le droit et qui sont évidemment totalement différents selon les types d'illégalisme dont il est question. Alors, le deuxième point, je vais vraiment très vite, hein, je prends une note comme ça, voilà, c'est le mieux punir. Alors, le mieux punir, aujourd'hui, c'est punir hors de la prison. Voilà, c'est ça. Le mieux punir aujourd'hui, c'est punir hors de la prison. Alors, ce cours de 1973 insiste sur, mais c'est à l'état presque embryonnaire, hein, les relais, les points d'appui qui sont nécessaires au pouvoir pour qu'il s'exerce, le pouvoir de punir. Ça n'a cessé de se développer. Donc Foucault, à l'époque, parle de la famille, de l'école, du logement. Bon. Plus tard, Foucault aura à donner son opinion sur justement ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire ces fameuses alternatives à l'emprisonnement. Alors, à l'occasion d'un cours qu'il avait fait à Montréal, il a donné une conférence que je trouve extraordinaire, et notamment, il exprimait, alors je ne me souviens plus la phrase exacte, mais il terminait en disant, mais sur les alternatives, après tout, pourquoi pas un éclat de rire ? Bon, bah, pourquoi un éclat de rire ? Parce que lui, évidemment, ce qui va l'intéresser, c'est plutôt, comme la peine est pour lui fondamentalement un assujettissement, et je crois qu'il a entièrement... C'est de cela dont il s'agit. Ce qu'il remarque, c'est que les techniques utilisées pour obtenir cet assujettissement sont les mêmes en prison et à l'extérieur. C'est-à-dire on diffuse ces fonctions de la prison sur l'ensemble de la société. Alors, c'est dit comme ça, je crois qu'on ne l'a pas assez pensé, ça. Et qu'il faut, aujourd'hui, avec la réforme pénale hein, qui se prépare, dont Bernard et moi, nous avions l'année dernière, avec notre conférence de dissensus, commencé à jeter un pavé dans la mare. Hein. Mais je crois qu'il est, ça, c'est vraiment, ça me paraît important, aujourd'hui, de la prison, bien entendu, et la prison, je l'écrivais encore récemment, est toujours dans la tête des gens, hein, mais il faut sortir de la prison. Il faut regarder ce qui se prépare progressivement depuis 1975. À cet égard, d'ailleurs, les débats, alors que, évidemment, Michel Foucault n'a pas exploité, mais qui sont formidables, qui ont eu lieu au moment de la loi du 11 juillet 1975, c'est-à-dire quand on a essayer pour la première fois d'introduire en France des peines qui devaient se substituer à la peine de prison. Et les opposants à l'époque, mais on comprend vu la majorité politique, c'était le Parti socialiste. Le Parti socialiste était totalement opposé aux peines alternatives parce qu'elles étaient inégalitaires. Et que la prison... présentait pour eux cet avantage, avec tous ces inconvénients, bien entendu, que l'on connaît tous, hein, c'est qu'elle était la même pour tous, disait-il, invraisemblable. Bon, bien entendu. Mais l'idée qu'il se faisait de l'unité, puisque c'était bon, l'unité de temps, etc., donc la même pour tous. Et la peine qui va cristalliser leur critique, c'était la peine de suspension et d'interdiction et d'annulation du permis de conduire que Le Canuet, à l'époque, voulait généraliser comme peine. Il disait, voilà, tout le monde aime sa voiture, c'est un bien précieux, et donc on va faire que cette peine, elle devienne une peine générale, quelle que soit l'infraction. Voilà, donc, enfin, vous voyez, on est très loin, on voit le chemin parcouru, depuis. Alors, depuis, eh bien, on a cessé d'étendre les relais de pouvoir dans la société. C'est ce à quoi on attiste aujourd'hui avec la famille. Mais la famille, avec les peines actuelles et celles qui se préparent, et un certain nombre de recherches ont été faites, sont devenus des captifs d'une peine qu'ils n'exécutent pas. C'est-à-dire, la famille est devenue un auxiliaire de justice. Alors que voyez, tout ça s'est développé. Ce qui est en germe dans le cours, on le voit aujourd'hui se développer. Le secteur associatif aussi, qui est en pleine restructuration, est extrêmement mobilisé. Donc on voit se développer le salariat au sein du secteur associatif, une professionnalisation de l'associatif comme auxiliaire de justice. Et on a, dans ce domaine dit de la réinsertion, des associations qui sont devenues des associations parapubliques, qui deviennent des prestataires de services plus que véritables partenaires. Bon, tout ça, c'est des développements actuels que, évidemment, on mériterait de repenser. Puis alors, surtout, il y a quelque chose, évidemment, que Michel Foucault n'a pas eu le temps de penser, c'est l'extension considérable. Alors déjà dans les incriminations pénales, mais à mon avis qui va se développer, des logiques de précognition. Alors Bernard, avec ta critique de l'actuariel, t'as commencé un petit peu là-dessus. Alors, qui font ces logiques de précognition font de la prévention une catégorie qui est devenue pour moi beaucoup trop grossière, un espèce d'attrape-tout. Et je crois qu'il faut vraiment on repense cette catégorie grossière et attrape-tout qu'est la prévention avec le développement des logiques de précognition. Hein, cette extension considérable. Alors, pensons à Minority Report, hein, le fameux film. Moi, je pense que On y va. Hein? Bon, le droit pénal est plein maintenant d'infractions de prévention. On sanctionne pratiquement des intentions maintenant. Des intentions de, alors qui sont construites, évidemment, les juristes font ça très bien, hein, en une infraction autonome, une incrimination. Moi, l'ancêtre a été l'association de malfaiteurs, évidemment. Mais bon, depuis, ça s'est formidablement développé. Alors, j'ai déjà été trop longue, je n'ai pas le temps de parler de l'importance des professionnels dans la réforme pénale. Foucault le fait pour le 18e. Ça a été vrai dans la constitution du code pénal de 92, c'est vrai aujourd'hui. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la réforme pénale qui va être présentée prochainement, qui va être débattue, c'est justement les affrontements entre professionnels, mais même à l'intérieur du corps de la magistrature, entre le siège et le parquet, par exemple. Il y a plein de traces, hein, de cet affrontement entre le siège et le parquet dans des dispositions très, très précises, etc.
Merci. Alors, notre dernière intervention pour ce panel, c'est Corentin Durand. Corentin, ancien élève de l'école supérieure, est venu il y a quelques années à l'Université de Chicago, passé un an, et était là pendant la production des cours, m'a beaucoup assisté à déchiffrer l'écriture de Foucault et a beaucoup aidé à penser ce cours. Maintenant doctorant à l'école ici, à l'EHESS, donc content. Oui.
Ils aillent ensemble, je crois. Ok. Vous
voulez qu'on échange d'ici? Donc bonjour, je crois que c'est inutile de souligner à quel point c'est impressionnant pour moi de m'intervenir dans ce panel et dans cette discussion. Je crois que à peu près la totalité des gens par lesquels j'ai connu Foucault, non pas pour leur attribuer les éventuelles faiblesses de ce que je vais dire, mais pour un témoignage collectif. Et donc ce privilège le doit à Bernard Harcourt, hein, et à la confiance qu'il m'a faite, donc je le remercie très, très chaleureusement. Les pistes de lecture que je voudrais esquisser sont faites depuis une certaine distance, une distance par rapport au texte qui est à la fois une distance générationnelle, puisque j'ai commencé ma formation universitaire plus de 20 ans après la disparition de Michel Foucault, et aussi une distance, si j'ose dire, disciplinaire, puisque, comme l'a rappelé Bernard, je suis doctorant en sociologie, intéressé par la question carcérale, mais que la lecture de Foucault a été pour moi, et je pense pour beaucoup d'étudiants de ma génération, surtout une invitation à regarder certains objets et à les regarder d'une certaine manière. Et je crois que ce nouvel opus du travail d'édition des prises de parole et de plumes de Michel Foucault vient pour le sociologue et certainement pour d'autres, je crois que cette journée va en être l'illustration, renouveler cette invitation à regarder de nouveaux objets ou en tout cas à les regarder différemment. Je vais revenir sur deux éléments du texte qui entrent plus particulièrement en résonance avec mes préoccupations de recherche puisque je travaille sur les modalités selon lesquelles les capacités critiques d'acteurs affaiblis et socialement affaiblis mais principalement par l'expérience de l'incarcération, comment ces capacités critiques donc peuvent s'exprimer et le cas échéant avoir des effets sur le monde social. Dans cette optique, je voudrais revenir sur la méthode d'analyse de la morale et du pouvoir que propose la société punitive et suggérer que ce que Foucault appelle dans son cours la morale hors texte peut permettre de rendre compte sociologiquement de ce dont est faite la jonction essentielle dans la société punitive, dans la société punitive, des pratiques punitives et des pratiques proprement pénales. En effet, la place que réserve la société punitive à la morale est, je crois, particulièrement riche. Elle est au cœur du double mouvement de moralisation de la pénalité et de pénalisation de l'existence qui constitue la société punitive. Je ne vais pas revenir en détail sur ces deux mouvements, hein, j'en serai d'ailleurs mieux indiqué pour le faire, mais je vais essayer de tenter de suivre les efforts théoriques et méthodologiques que fait Foucault pour délimiter ce qu'est la morale et indissociablement ce qu'est le pouvoir et voir comment on peut s'en servir en sociologue. J'aimerais particulièrement insister sur le fait que la société punitive invite à saisir le pouvoir par le biais de ce que Foucault appelle donc cette morale hors texte. Donc je ne donnerai pas une lecture au regard de la controverse avec Derrida, mais plutôt en dialogue avec une sociologie politique et morale telle qu'elle s'est développée en France depuis une trentaine d'années. La citation qui est placée en quatrième de couverture le rappelle bien, la morale dont il est question à surveiller et punir n'a rien à voir avec les fondements de la métaphysique des mœurs ou avec une quelconque théorie morale. Foucault le répète à plusieurs reprises, l'histoire de la pénalité ne peut pas être, en tout cas pas essentiellement, une histoire des idées morales. La solution pointée par la citation en quatrième de couverture, donc qui est à la page 112 dans le texte, est cependant pas complètement satisfaisante. Il poursuit, pour comprendre le système de moralité d'une société, il faut poser la question, où est la fortune ? L'histoire de la moralité doit s'ordonner entièrement à cette question de la localisation et du déplacement de la fortune. On entend ici résonner de fortes tonalités matérialistes, c'est le moins qu'on puisse dire, qui font d'ailleurs écho au texte de Marx sur le vol des bois ou de Blanqui sur les impôts sur le vin que Foucault avait cité deux semaines plus tôt. Cependant, Foucault ne s'arrête pas là. Je pense que c'est là que les choses deviennent intéressantes et que effectivement, ce marxisme alternatif dont parlait Étienne Balibars émerge, puisqu'il n'indexe pas tant le pouvoir au rapport économique, mais au rapport politique. Page 117, Foucault énonce que la morale n'est pas dans la tête des gens, elle est dans les rapports de pouvoir. En effet, si la fortune se possède, ce n'est pas le cas du pouvoir. Et c'est là qu'on en arrive à la leçon de 28 mars, qui, je crois, a une densité théorique sur la conceptualisation du pouvoir qui est assez exceptionnelle. Le pouvoir, donc dit Foucault, parvient ou non à s'exercer. Il est donc toujours une certaine forme d'affrontement stratégique instantané et continuellement renouvelé entre un certain nombre d'individus. Analyser une forme de pouvoir, ici le pouvoir disciplinaire, c'est donc aussi faire ce que Foucault appelle une histoire de la morale comme stratégie. Pour cela, nous dit Foucault, il faut se saisir du hors-texte. Le hors-texte, donc là je reviens très rapidement, mais pas au même niveau sur la distinction entre hors-texte et non-dit, donc c'est pas un non-dit qu'il s'agit d'interpréter le hors-texte, c'est l'ensemble des actes discursifs et d'écriture donc qui sont réalisés, mais qui n'ont pas été constitués comme texte, c'est-à-dire qui n'ont pas été rattachés à un auteur ou à une œuvre. Le hors-texte est finalement cet acte d'écriture que sa routinisation a rendu invisible. Dans un passage du manuscrit qui n'a pas été repris pendant le cours, Foucault dresse un premier inventaire de ces actes discursifs nécessaires à réaliser une histoire de la morale comme stratégie. Pièces de procès, d'expertise médicale, cas de conscience, rapports de police, actes de toutes les sociétés de moralisation, procès-verbaux de toutes les instances dirigeantes. Le hors-texte n'est pourtant pas seulement constitué de ce qui se dit dans ces sociétés de moralisation, dans ces instances dirigeantes. Il est aussi, je crois que c'est là qu'il y a quelque chose de vraiment important qui joue, dans l'interaction avec ceux dont les intérêts divergent de ce qu'on pourrait appeler, pour le dire vite, la classe dominante. C'est ce que montre l'exemple que Foucault commence à analyser, en tout cas à ma connaissance, dans ses cours, des lettres de cachet. On est 10 ans avant la publication avec Arlette Farge du désordre des familles, et déjà ce que dit Foucault, cours sur les lettres de cachet dans ce cours permet de franchir, je crois, une étape supplémentaire dans l'articulation entre pouvoir et morale. La thèse générale de la page sur les lettres de cachet est bien connue, non ? Bien que les lettres de cachet aient été longtemps présentées comme le symbole de l'arbitraire royal, elles émanaient en fait surtout de demandes de famille ou de communauté, de groupe, pour sanctionner un membre dont la vie était jugée par trop dissipée. Plutôt que l'arbitraire, les lettres de cachet marquent une appropriation temporaire du pouvoir royal par un nombre important d'individus qui n'étaient pas le plus souvent des privilégiés. Or, ce que dit Foucault dans La société punitive, c'est que cette appropriation suppose et produit un certain consensus moral entre les familles, ou en tout cas les groupes constitués dans la société, et le pouvoir politique. Ainsi, les catégories morales à l'œuvre dans les lettres de cachet, la débauche, la dissipation, la violence, ne sont pas seulement les indices d'un certain type d'exercice de pouvoir, elles en sont constitutives. L'analyse de la dimension morale du hors-texte permet donc une description dynamique des pratiques de pouvoir. Cette méthode proposée par Foucault pour analyser le pouvoir disciplinaire peut tout aussi bien interroger d'autres formes de pouvoir dans nos sociétés contemporaines. Plus particulièrement, je voudrais suggérer dans un deuxième temps qu'en analysant la multiplicité des actes discursifs et des actes d'écriture qui mettent en relation gouvernants et gouvernés de part et d'autre de l'incarcération, on se donne les moyens de réinvestir sociologiquement la relation entre le pénitentiaire proprement dit et le coercitif en général. En effet, en représentant la société comme une forme sociale générale, la société punitive relance un débat central de la sociologie carcérale, et je pense plus généralement des études de la prison, à savoir la nature de la relation que la prison entretient avec le reste de la société. Dans la société punitive, cette question s'exprime en termes généalogiques par une tension qu'on peut superposer sans doute, en forçant un peu le trait, à celle de deux concepts, le pénitentiaire d'un côté et le coercitif de l'autre. Le pénitentiaire est, comme le rappelle Foucault, le champ associé à la prison, citation de la page 104. Certes, on ne se limite pas à l'emprisonnement, mais la prison est le foyer à partir duquel se développe toute une série d'institutions et pratiques d'enfermement, dont la liste est maintenant bien connue. Prison, hôpitaux, internat. La relation entre la prison et la société se pose alors essentiellement en ces termes. Si la prison est punitive, c'est qu'elle se carcéralise, c'est-à-dire que la prison diffuse ses logiques et ses fonctions à l'ensemble du corps social. C'est d'ailleurs l'hypothèse que suit Foucault lors de la conférence dont Pierre Atmosphère a déjà parlé, qu'il donne à l'Université de Montréal le 15 mars 1976, où, interrogé sur le développement des alternatives à la prison, Foucault affirme que le déclin du pénitencier est une manière de diffuser hors de la prison les fonctions de surveillance qui vont maintenant s'exercer non plus seulement sur l'individu enfermé dans sa cellule ou dans sa prison, mais qui vont se répandre sur l'individu dans sa vie apparemment libre. Au contraire, avec le coercitif, la prison se voit décrite comme une sorte d'excroissance d'un projet sociétal plus global qui n'implique pas nécessairement l'emprisonnement, comme le montre notamment l'étude du livret ouvrier ou de la caisse d'épargne dans la société punitive. La prison est le lieu, nous dit Foucault, où les principes généraux de la coercition, les formes, les thèses et les conditions de celle-ci sont concentrés à l'usage de ceux qui ont cherché à échapper à la coercition. Ainsi, la prison est, comme le disent bien souvent les pénitentiaires eux-mêmes, l'institution qui intervient quand toutes les autres ont échoué, une sorte de coercitif au carré, comme on a pu décrire le mitard comme une prison dans la prison. Dans les cours de 1973, ces deux principes généalogiques concourent à la formation de la société punitive. Ils ouvrent cependant, je crois, des perspectives assez différentes en termes de programmes de recherche empirique. Il me semble que ces pistes ont été assez inégalement explorées en l'état actuel de la recherche en sciences sociales, et ce que je voudrais, pour conclure, explorer. L'hypothèse pénitentiaire, c'est-à-dire le déploiement de logiques forgées dans les institutions d'enfermement vers la société en général, a, je crois, été largement, peut-être insuffisamment, c'est ce que disait Pierre Poncelat, mais déjà en partie exploré dans la littérature sociologique. L'idée de diffusion de l'exceptionnalité de la prison vers le reste de la société s'est traduite notamment par des recherches sur les effets écologiques de la localisation des établissements pénitentiaires sur leur environnement social immédiat, sur l'expérience carcérale élargie vécue par les familles de détenus, ou encore, et c'est simplement pour prendre quelques exemples, sur la diffusion des fonctions de contrôle et de surveillance à des associations ou à des proches de personnes incarcérées dans le cadre d'aménagement de peine. C'est là encore ce dont on parlait il y a quelques minutes. L'hypothèse coercitive, en revanche, ouvre, je crois, des potentialités empiriques largement inexplorées et des questionnements sociologiques qui sont encore en grande partie irrésolus. Elle soulève d'emblée des problèmes méthodologiques importants. Comment suivre, comment observer l'infinité des contrôles quotidiens que subissent les personnes. Un article de 2004, Fabien Jobard et Gilles Chantraine avaient tenté de rendre compte de trajectoires de contrôle en décrivant une forme de continuité dans les interactions avec la police et en prison. Mais ces trajectoires de contrôle ne sont pas encore des trajectoires coercitives au sens de la société punitive, puisque, comme le dit Foucault, durant toute leur vie, les gens entretiennent une multiplicité de liens avec une multiplicité d'institutions dont aucune ne les représente exactement. Certains travaux dans la lignée ou de travail que je viens de citer ont tenté d'approcher cette multiplicité en suivant par exemple le contrôle social réservé aux femmes ou des trajectoires institutionnelles du compte de toxicomanes. Mais la description des formes de pouvoir proprement qui suit cette jonction du punitif et du pénal se dérobe encore. Pour aller plus loin, il me semble que le programme méthodologique tracé par Foucault en marge de la société punitive peut s'avérer précieux. Il permet de saisir par le biais du hors-texte la multiplicité des rapports de pouvoir que rejouent chaque jour les interactions avec des autorités. L'analyse des catégories morales à l'œuvre dans ces échanges entre gouvernés et gouvernants, que ceci soit direct comme dans l'interaction au guichet ou indirect comme dans les échanges de courriers, permet notamment de rendre compte d'éventuelles ruptures et d'éventuelles continuités dans les rapports de pouvoir entre le contexte carcéral et d'autres contextes institutionnels. C'est dans cette perspective que, dans le cadre de ma thèse, j'essaye d'analyser les spécificités et les similitudes d'une multiplicité d'interactions épistolaires avec un certain nombre d'autorités pendant et après incarcération. En rendant compte de la nature et du contenu de ces écritures qui sont complètement routinisées, des catégories morales qui les habitent, c'est bien une forme de pouvoir ou peut-être une multiplicité de rapports de pouvoir qu'il s'agit de caractériser. La question de la continuité du pénal et du punitif peut ainsi poser au hors-texte de l'incarcération et de la sortie de prison, posée non seulement à la morale comme stratégie des dominants, des gouvernants, mais aussi à la morale comme enjeu de leur rapport avec les gouvernants.
Merci. Il y a beaucoup de pistes de recherche ici. Je pensais beaucoup, Étienne, à la question de Weber, sur laquelle vous avez fini, qui est vraiment très important, je crois, et quelque chose qui est moins facile à développer dans ce cours, parce qu'il y a moins d'intersections, d'utilisation de termes, etc., mais qui est vraiment une conversation profonde de ce cours avec l'éthique protestante. J'en avais beaucoup parlé avec François Eval, peut-être que François, vous en parleriez plus tard, pendant le prochain panel. Beaucoup d'autres pistes de recherche, bien sûr, sur les questions actuelles des projets de loi et de cette question de formation d'une certaine vérité à travers le consensus. Qui place ce livre dans ce contexte précisément de la production de vérité. Et c'est très important parce que ce que ça reflète dans un certain sens, c'est que ça peut nous mener, je crois, à une relecture, comme je propose, une relecture de Surveiller et punir comme étant une étude de cas. Ce qui rend le livre lui-même très différent, je crois, la compréhension du livre ou l'interprétation et l'utilisation du livre aussi. Plutôt que de moi de parler, je voudrais ouvrir la salle pour des questions, quelques petites questions avant de tourner le micro à François Eval pour le prochain panel.
C'est un après-coup à cause de ce que disait Daniel tout à l'heure, de ce que disait Daniel Defer tout à l'heure, au registre des, et de ce que vous venez de dire d'ailleurs, au registre des différences significatives entre surveiller et punir et la société punitive, je pense qu'il faut inscrire, d'abord pour le constater, ensuite réfléchir aux conséquences qu'on peut en tirer, à ceci que, qui surgit quand même très massivement dans Surveiller et punir, avec la généalogie des disciplines, qui n'est pas du tout là dans la société punitive, c'est la dimension technologique du pouvoir. Je ne veux pas dire qu'elle soit complète, de la punition. Mm-hmm. Pas dire qu'elle soit complètement absente de la société punie, ça ne serait pas vrai. Mais en particulier, les esquisses tout à fait extraordinaires de cette analyse et de cette phénoménologie de la séquestration sur laquelle se termine quasiment le livre ouvre évidemment dans cette direction, mais c'est quand même pas l'action principale. Et alors du coup, par en contrepartie évidemment, d'où l'intérêt me semble-t-il d'une réflexion approfondie sur le fonctionnalisme, c'est surtout à ça que je pense quand je pense à la comparaison avec Weber. C'est pas simplement à la question de l'éthique protestante, mais c'est au fait que Weber et Foucault, l'un et l'autre, même si c'est pas avec les mêmes objectifs exactement, définissent le pouvoir non pas comme ce qui descend de la loi, mais comme ce qui est l'enjeu stratégique d'un conflit permanent. C'est-à-dire ce qui fait que une règle existe. C'est pas le fait qu'elle va être obéie, c'est le fait qu'il y a des chances, comme dit Foucault, comme dit Weber, pour qu'elle soit obéie, et il y a des chances pour qu'elle soit désobéie, et c'est qu'elle provoque la désobéissance. C'est cette probabilité qui fluctue en permanence. Et alors là, de ce point de vue, la société punitive ne prend pas les choses sous l'angle de la technologie, mais prend les choses sous l'angle de la sociologie, c'est-à-dire de la fonction sociale et même tout simplement du tissu social que constitue la délinquance et l'illégalisme dans la construction d'une société. Bon, alors je ne sais pas si c'est vrai ce que dit Foucault, j'en sais rien. Bon, mais en tout cas, c'est tout à fait extraordinaire comme construction théorique et à ma connaissance unique. Dans le reste de son œuvre, c'est presque une possibilité de sociologie critique qu'il a commencé à construire et puis dont il a finalement décidé de la laisser à d'autres ou de la laisser de côté.
Et du reste, il y a un passage dans le manuscrit qui représente cette critique ou une critique du fonctionnalisme sociologique qu'il a décidé de ne pas livrer pendant le cours. Je crois que c'est à la fin du premier de la première leçon. Merci.